各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到欧罗巴一号电台晚间杂谈时间。我们的节目将由晚上11点到第二天凌晨1点，谢谢大家的收听。
Et oui, une soirée spéciale ce soir, comme vous l'aurez compris. Je ne suis pas seul autour de cette table. Je suis accompagné d'amis qui, pendant 2 heures, vont vous parler. C'est Yifan qui a accueilli nos auditrices et nos auditeurs. Je suis en compagnie de Lei, de Ting, de Yifan, de David et de Jérémy. Et je vous remercie de nous retrouver ce soir à l'antenne libre. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39-21, 50 centimes par minute, et nous vous rappelons que vous pouvez réagir au témoignage en envoyant un SMS au 739-21, commençant par le mot nuit, en majuscule. Et vous pouvez également, quand vous le souhaitez, nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr. Ting, comment est-ce qu'on dit en chinois bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 ?
Comment je dis en chinois ? 欢迎各位听众朋友们.
Alors, on va vous demander, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter. Nous allons commencer par Lei. Je prononce bien Lei, ça va ?
Exactement, Lei. Parfait.
Alors Lei, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ?
Moi, je suis Lei. La présentation va être en français. Hein.
Ah bah bien sûr.
Ok.
Non mais bah... tu peux te faire une petite présentation en chinois, très courte, et ensuite en brillant français. Dire que tu es contente d'être sur Europe 1 en direct à 23h10 en chinois, et puis ensuite tu nous parles en français. D'accord ?
Ok. 我叫苗磊，很高兴和欧罗巴一号的听众朋友们见面。je suis Lei. Je viens de Chine, une petite ville pas très loin de Nankin. Je suis très contente de vous accompagner ce soir pour discuter assez librement. Merci beaucoup.
Je t'en prie, Lei. Ting, pareil, tu vas faire une petite présentation en chinois très courte et ensuite en français.
大家好，我叫宁婷，非常高兴来到欧罗巴一号和各位听众朋友见面。 Hello tout le monde, je m'appelle Ting, je suis chinoise aussi, je viens d'une ville au sud de la Chine, et elle s'appelle Guangzhou, on l'appelle aussi Canton, et j'ai 24 ans.
Très voilà. Bien. Yifan, est-ce que tu peux te présenter d'abord en chinois et ensuite comme tes collègues en français?
Ok, je vais parler d'abord en chinois. 各位听众朋友们大家好，我叫Yifan。 我来自中国，我是法国埃塞克商学院的学生，今天非常高兴能够来到欧罗巴一号跟大家一起交流。 Bonjour à tout le monde, je m'appelle Yifan et je suis étudiante à l'ESSEC. Je suis ravie de venir en Europe 1 pour discuter avec vous. Merci.
À ta gauche, Yifan, il y a un étudiant également, Jérémy.
Bonsoir.
Approche ton micro. Voilà.
Comme ça ?
C'est bien. Non, mais approche plutôt le micro plutôt que toi approcher du micro, ça sera moins fatigant. Voilà.
Okay.
Alors présente-toi, Jérémy.
Alors, Jérémy, 25 ans, je suis étudiant. Pour le coup, je suis français et je suis ravi d'être là ce soir. Merci beaucoup.
C'est la première fois que tu fais de la radio, que tu t'exprimes à la radio ?
Absolument.
Bon, il n'y a pas de radio à l'ESSEC ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que.
Tu apprends le chinois ?
J'ai appris le chinois, ouais, putain.
Donc tu parles couramment ?
Couramment,
tu parles chinois. Tu pourrais te présenter un petit peu en chinois.
Je connais quelques mots. Je connais quelques mots. Je peux dire que je m'appelle Jérémy. Wadiao, Jérémy. Et puis on va s'arrêter.
C'est pas évident.
Un peu d'émotion.
Oui, non, je te prends un peu au débotté.
C'est une première.
Et à ta droite, Yifan, il y a David. Bonsoir, David.
Bonsoir à tous. Wosh, David. Wohenga aussi, Tsai Europin. Non, plus sérieusement, je suis David. Je suis étudiant à l'ESSEC également. Et je ne suis pas chinois, je suis franco-russe, mais voilà, je m'intéresse au chinois, j'apprends le chinois.
Tu apprends le chinois.
Ouais.
Et donc tu parles couramment russe,
oui,
français, chinois, anglais,
voilà,
quoi d'autre ?
Pour l'instant c'est tout.
C'est
peut-être un jour l'arabe après le chinois. Mais...
l'arabe. Vous parlez quelle langue, vous mademoiselle, d'autres, à part le français et le chinois ? L'anglais j'imagine ?
Anglais, un petit peu coréen.
Un petit peu coréen ?
Oui.
Ah bon ? Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
Ah, elle fait bien l'accent en plus.
Ouais,
hein.
Parce que mon copain, il est franco-coréen, oui.
Et tu peux nous parler un peu coréen, là, alors ? Tu peux te présenter en coréen aussi ?
Non, je ne veux pas ajouter les scontos sur ASEC. Hein.
D'accord. Et Ting, tu parles quoi comme langue aussi?
Je parle chinois, mandarin.
Mandarin,
et
oui.
Aussi cantonais.
Cantonais.
En fait, moi, ma première langue est cantonais. Donc, je parlerai mandarin avec l'accent cantonais.
Alors, j'ai une question à vous poser. Il paraît que lorsque Mao Tse-tung a fait sa révolution culturelle, il a énormément simplifié la langue chinoise. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont considéré évidemment que c'était un massacre. Et est-ce que vous confirmez que la langue chinoise a été amputée à ce moment-là? Et est-ce qu'il y a encore des gens qui enseignent la langue d'avant Mao Tse-tung et d'avant la révolution culturelle?
Alors, je permets de donner mon opinion.
Ouais.
Déjà, pour moi, la langue chinoise n'a pas changé après la simplification, parce que, en fait, la simplification, c'est un choix. C'est un choix pour améliorer le niveau d'éducation de la population. Parce que la langue chinoise, c'est une langue qui a beaucoup de différences entre l'écriture et la prononciation. Donc, c'est un grand enjeu pour le nouveau gouvernement d'alphabétiser les populations. Donc, ce qu'on a choisi, c'est simplifier un peu les lectures pour mieux enseigner, pour que tout le monde soit capable de
D'accord.
parler et d'écrire cette langue. Mais au niveau de prononciation, il n'y a rien qui a changé, mais seulement l'écriture qui a changé. Mais encore, on peut tracer un peu le lien entre chinois traditionnel et chinois simplifié. Et actuellement, en tant qu'une chinoise, je suis capable de lire encore la langue traditionnelle. Mais au niveau d'écrit, vu qu'on n'est pas entraîné, on n'est pas compétent. Mais pour moi, on ne peut pas dire que c'est des deux langues différentes.
Mais alors, ça veut dire, c'est très intéressant ce que tu dis, ça veut dire qu'en fait, à l'oral, il n'y a aucune différence entre les deux langues. C'est juste à l'écrit,
ouais.
Dans l'orthographe.
Enfin, si ouais. Ouais.
Ah, donc en fait, c'est une simplification de l'orthographe pour, dans ce que tu m'expliques, pour que tout le monde puisse avoir accès à la langue plus facilement.
Ouais,
et
exactement.
Parce que ça veut donc dire aussi que le chinois traditionnel à l'écrit était extrêmement sophistiqué, compliqué et difficile.
Ça dépend, mais oui, par rapport à notre version simplifiée, il est compliqué.
Et est-ce qu'on l'enseigne, ce chinois traditionnel?
Oui, mais dans les cas particuliers. Par exemple, les gens qui font des études en calligraphie, dans ce cas-là, on pratique quand même des chinois traditionnels parce que c'est plus joli pour écrire.
Et j'ai une question à te poser, oui, Ting. Est-ce que, et même à vous trois, hein, est-ce que la différence entre le mandarin et le cantonais est une très, très grosse différence?
Oui, il y a une très, très grosse
différence. Et à quel niveau?
Je pense que la différence entre cantonais et chinois est plus large qu'entre français et espagnol. Donc, déjà, pour ceux qui parlent seulement mandarin, ils ne vont pas comprendre cantonais. Mais par exemple, vous, français, quand vous entendez l'espagnol, vous allez à peu près capter les faces. Mais entre mandarin et cantonais, je pense qu'il y a grande différence. Mais à niveau de l'écriture, je voudrais dire que, en fait, je trouve que à mon avis et avec mes expériences, je trouve que c'est dommage que l'écriture chinoise a été simplifiée, parce que comme ma première langue, c'est cantonais, on écrit cantonais avec les caractères traditionnels.
Traditionnels.
Oui. Donc, si, par exemple, moi, j'ai reçu l'éducation normale, si je pourrais métis ou écrire chinoise en traditionnel, pourquoi il y aura une version simplifiée?
Simplifié, oui, je comprends.
Je pose la question.
J'ai l'impression de t'être fait un peu avoir, quoi. C'est-à-dire que toi, tu t'es embêté à avoir l'écriture traditionnelle et les autres, ils ont eu la vie plus facile en allant directement à l'écriture simplifiée. D'ailleurs, le coréen était à la base écrit en caractère chinois.
Oui.
Et ensuite, ils ont inventé une écriture coréenne, d'ailleurs très proche du vocabulaire mathématique, pour que là encore, manifestement, ce chinois littéraire a l'air quand même difficile, parce que pour que les Coréens puissent avoir plus facilement accès à leur propre langue, ils ont inventé des caractères typiquement coréens pour pouvoir populariser leur langue. Donc ouais, c'est quand... Oui, Yifan, pardon.
Alors,
de toute façon, vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation pour parler.
Okay.
Hein. Je le dis aussi pour Jérémy et David, vous parlez quand vous en avez envie. Hein. On n'est pas en classe.
Okay. Sur ce sujet-là, j'aimerais bien préciser à notre auditeur française, parce que la langue chinoise est une langue particulière, il n'y a pas de lien entre l'écriture et la prononciation. Mais par contre, comme ce qu'on a mentionné, la langue coréenne, ce n'est pas un caractère. En fait, c'est un type d'alphabet particulier. Mais pas chinois. C'est-à-dire, c'est des caractères, si on ne connaît pas ce caractère, on n'a pas beaucoup de moyens pour le deviner. Et en niveau académique, on dit que c'est la langue de premier niveau, pareil comme la langue d'ancien Babylone, d'ancien Égypte et tout ça.
Non, pardon. Non, allez-y, je parle à la régie. Hein.
Ok, bah je pense que j'ai terminé. Et si vous avez questions...
Non, mais ce n'est pas ça. D'abord, je dis à nos auditeurs qui voudraient parler aux jeunes étudiants qui sont avec moi ce soir, vous pouvez vous appeler le 3921 et vous pouvez parler à n'importe lequel de ces étudiants sur Europe 1. Mais quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, c'est que les Coréens... Vous imaginez, par exemple, effectivement, une langue comme le français, l'anglais, l'espagnol, sans doute aussi le russe, on pourrait très bien changer d'alphabet. C'est-à-dire que l'exercice intellectuel qui consiste à continuer à parler sa langue en changeant complètement l'alphabet dont il dépend, c'est quand même un exercice intellectuel d'une très grande violence pour le cerveau. Continuer à parler la langue avec d'autres caractères. Imaginez en français, par exemple. On change complètement l'alphabet. On invente des signes qui n'ont rien à voir avec l'alphabet tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Par exemple, qu'on parle français en alphabet cyrillique. Ça serait quand même...
Ouais.
Et encore en cyrillique, on peut deviner un peu, parce que ça ressemble encore un petit peu, alors que les caractères coréens et les caractères chinois, les idéogrammes chinois, ça ne se ressemble en rien. Oui, pardon. Jérémy, vous voulez intervenir, il n'a pas encore parlé.
Sauf erreur de ma part, je crois que c'est ce qui a été fait en Turquie, sous Atatürk, qui sont passés d'un alphabet arabe à l'alphabet plus ou moins latin, avec quelques ajustements, parce que ça correspondait mieux à la langue turcique, quoi. Donc, et une autre question que j'avais pour nos camarades chinoises, c'est, si je ne dis pas de bêtises, à Taïwan, ils continuent à utiliser les caractères traditionnels.
Ouais. C'est leur choix. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est dans le dictionnaire, on cherche les caractères différemment. Genre en Chine, on a un système qui s'appelle pinyin. Oui. C'est-à-dire, c'est des lettres latines, en fait, pour montrer justement la prononciation de la langue chinoise. Mais à Taïwan, il n'existe pas ce genre de système.
Non, il existe. Ouais. Zhuyin, en fait, ça, c'est pour simplifier la prononciation aussi. Et je veux juste rebondir ce que tu dis, Yifan, parce qu'en fait, ça existe une différence entre la transition des caractères traditionnels à des caractères simplifiés entre le cas en Corée. On changeait le caractère traditionnel chinois en coréen aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ont totalement changé le système. Mais nous, aujourd'hui, même si je n'ai jamais vu des caractères traditionnels, mais je peux deviner, parce qu'il y a toujours la même racine. C'est pour ça qu'on n'a pas totalement perdu notre culture.
Bon,
ça,
je rassure nos auditeurs, on ne va pas parler de vocabulaire et d'alphabet pendant 2 heures.
Hein. Ouais.
D'ailleurs, je vous rappelle, vous vraiment pouvez nous appeler au 3921, on vous rappelle, ou envoyer des SMS, je les lirai. D'ailleurs, Nicolas, si tu peux m'afficher les SMS, ça serait cool. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Juste quand même une question que je voudrais vous poser, la dernière au niveau de la langue. Vous savez que nous, on essaye de faire l'Europe. Est-ce que vous, en tant que Chinois ou Russe, très intéressant, qui vivez dans des pays dont la géographie est extrêmement vaste, ça m'intéresserait de connaître votre avis au sujet suivant, c'est que est-ce que vous pensez que l'Europe peut se faire, sachant que lorsque un Allemand et un Espagnol parlent, a priori, ils ne se comprennent pas. En français, par exemple, on dit que la Lune, c'est féminin, que le Soleil, c'est masculin. En allemand, c'est l'inverse. Est-ce que vous croyez, vous, qu'on peut faire l'Europe avec des pays dont le vocabulaire, dont les langues sont aussi dissemblables les unes des autres? Parce que quand on dit « la Soleil » ou « le Lune », la vision du monde qu'on a n'est pas la même. Un Français n'a pas la même vision du monde qu'un Allemand. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, David, et ensuite nos amis chinoises et Jérémy?
Est-ce que la différence entre les langues peut avoir un effet sur la manière dont on perçoit les choses?
Non, ça c'est évident, mais est-ce que l'Europe est possible dans la mesure où finalement, personne ne parle la même langue en Europe, et par conséquent, comme on ne parle pas la même langue, on n'a aucune raison d'avoir la même vision de la réalité, puisque le mot donne l'être.
Je pense que malgré tout, c'est vrai qu'on fait de la langue quelque chose d'assez fondamental, mais la différence de perception entre les mots n'a pas un impact aussi important. C'est une vision personnelle, et libre d'en débattre, mais utiliser le féminin ou le masculin pour la lune, je pense que ce qui pourrait éloigner les Européens, il y a des valeurs, des principes entre les différents pays qui diffèrent. Et qui sont une enfin pas une menace pour ne pas utiliser le gros mot, mais qui sépare beaucoup plus les Européens que la langue en tant que telle. J'imagine par exemple le, enfin voilà.
Je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est que toi tu pars du principe que le monde préexiste à la langue. Et moi je pense l'inverse, c'est-à-dire que la langue préexiste au monde. Je pense que en fait tant qu'un objet n'est pas désigné, il n'existe pas, tu le vois pas. Et d'ailleurs les neuroscientifiques ont fait des expériences. Si on t'enlève un morceau du cerveau et tu ne peux plus avoir accès au mot chaise, et d'ailleurs les gens qui ont Alzheimer etc. admettons que le mot chaise ils n'arrivent plus à le prononcer. Eh bien ils ne voient plus les chaises dans une pièce. C'est-à-dire que je pense en fait que le fait de désigner le réel fait advenir le réel et que par conséquent en fonction des mots que tu as à ta disposition, sort un réel de ta bouche, et c'est ce réel-là qu'on a en commun. Et je ne pense pas comme toi qu'il y a un monde qui préexiste et tu colles des étiquettes indifféremment, et tout d'un coup, tu colles une étiquette anglaise sur un rocher, une étiquette allemande sur le même rocher, que tu vois la même chose. Et je pense pas. Le fait qu'il s'appelle différemment dans différentes langues, tu ne vois pas la même chose. J'en suis absolument convaincu. Mais c'est un débat très intéressant. Hein.
Yann, je suis désolée, oui, parce que j'ai une opinion un peu différente que le vôtre.
C'est ça qui est intéressant.
Ok, parce que je pense que, selon mes études, ce que j'avais compris, c'est la langue, c'est une création historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas né avec les humains. Avant que la langue existe dans la société humaine, nous, en tant que Homo sapiens, on existe déjà. Ça veut dire que le mot, genre, il y a des millions d'années avant, quand on n'a pas encore le système de la langue, de l'écriture, on voit quand même la pierre, la lune, le soleil. Et avant de le décrire avec le mot, on a quand même une aperçu. Donc, je rebondis vers ce que vous venez de dire. Je trouve que certes, il y a des influences qui est donnée par la langue. C'est-à-dire, moi, en tant que chinoise, j'ai aperçu des choses différentes que les Français. Si je peux prendre un exemple, c'est en tant que chinois, quand on décrit les animaux, c'est tellement intéressant. Parce que pour nous, le lapin, bon, c'est un lapin, et le lièvre, c'est un lapin sauvage. Un cochon, c'est un cochon, et le sanglier, c'est un cochon sauvage, et un girafe, c'est un cerf avec des longs cous, des choses comme ça. Mais je ne pense pas que l'influence de la langue est fondamentale pour notre façon de connaître le monde.
Je vais rebondir sur ce que tu dis. De deux manières. La première, tu dis que girafe en chinois, ça veut dire c'est cerf au long cou, c'est ça?
Ouais.
Eh bien, est-ce que tu vois une girafe ou est-ce que tu vois un cerf au long cou quand tu vois une girafe?
Je pense qu'avant, dans ma tête, avant que je prononce le nom de cet animal, d'abord je le regarde.
Oui, tu
donc
voyais quoi?
C'est l'image.
Non mais attention, c'est intéressant. Le fait que ça s'appelle cerf au long cou, ça veut dire que des gens l'ont perçu comme ça.
Ouais, je suis d'accord. Mais d'abord, ce qu'on a vu, c'est l'animal.
Oui,
donc on n'est pas obligé d'attacher un mot.
Oui, mais ce qui m'intéresse, malgré tout, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Tu sais comment l'alphabet s'est créé, alpha, bêta, etc. C'est qu'au début, le alpha, c'est un taureau. C'est des dessins. Donc, on a dessiné ce qu'on a vu. Et à partir de dessins qu'on a fait, on a inventé une écriture en Mésopotamie. Et cette écriture est devenue un alphabet. Mais il y avait un symbole au départ qui était l'animal qu'on voyait, un dessin. Donc on a sorti quand même ce qu'on voyait. Et ensuite ce dessin s'est perdu dans une sorte d'abstraction qui est devenue un alphabet. Mais ce n'est pas la même chose de confondre l'alphabet et le vocabulaire.
Ouais.
Non mais l'écriture cunéiforme, c'était des clous. Il y avait ça aussi. Ensuite, il y avait l'écriture cursive.
Ouais.
Mais effectivement, il ne faut pas confondre l'alphabet et le vocabulaire. Et je pense, si tu veux, que tant qu'une chose n'est pas nommée, elle n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'il est erroné, je pense, de considérer... Sinon, les choses n'auraient pas... Je vais te donner un exemple. J'ai un dictionnaire Larousse de 1907. Dans ce dictionnaire, il y a un mot qui est le mot « orme ». Qu'est-ce que c'est que l'orme ? Ben, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que le mot a disparu. Et c'est quoi ? C'était un mot qui désignait l'alignement des arbres le long d'une route. Aujourd'hui, si je veux dire l'alignement des arbres au long d'une route, je suis obligé de dire l'alignement des arbres le long d'une route. Ce qui fait que la réalité, dans son instantanéité, je l'ai perdue parce que le mot a été perdu. Alors que le mot « orme » me montrait le concept. Aujourd'hui, je ne le vois plus, ça. Je vois une route et des arbres plantés, tu vois ? C'est ça que je veux dire. Mais on ne va pas s'égarer là-dedans.
Non, non, mais c'est...
Pendant des heures.
Moi, je marche assez avec vous là-dessus. Je suis assez bergsonien aussi. Je pense que le langage est un filtre par lequel on trie, on crée la réalité. En revanche, j'ai un petit contre-argument et je pense que nos camarades chinoises pourront m'aider un peu là-dessus. Dans une vie antérieure, j'ai appris le chinois et le mot « analyser », « bien comprendre », ça se dit « liao jie ». Et il y a un des deux caractères qui en gros reprend deux éléments pour être construit. Un élément vache et un élément couteau. Donc en gros, ça veut dire couper un petit morceau. Et analyser veut dire exactement la même chose. Et donc, c'est quand même incroyable de voir d'un bout à l'autre du globe la même notion pour bien comprendre quelque chose, de couper un petit morceau et de reconstituer. Donc, d'habitude, j'aurais plutôt tendance à aller dans votre sens, mais...
Oui, mais là, tu apportes de l'eau à mon moulin. Parce que analyser, c'est pas une chose, c'est une action.
C'est un concept.
Oui, mais c'est un concept. Or, il est parfaitement normal. D'ailleurs, je te rejoins là-dessus, puisque en allemand, par exemple, le mot « joint d'étanchéité » et le mot « poème » ont la même racine. Un poème, c'est Dichtung, et joint d'étanchéité, ça doit être Gedicht ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'il y a cette notion, à la fois en poésie et en plomberie, de quelque chose qui est, d'une certaine manière, qui est, comment je cherche le mot, qui est pas opaque, mais qui est, je cherche le mot exact, quelque chose qui est. Comment on pourrait traduire ça ? Ça va me revenir. Mais une certaine manière, comme quelque chose qui est bouché, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès. Il y a cette idée. Il faudrait trouver le mot exact pour le traduire. Ce n'est pas évident. Mais c'était intéressant de voir que la racine était la même. Et est-ce qu'en chinois, par exemple, lorsqu'on traduit un poème français, est-ce qu'on peut, d'après vous, puisque vous êtes vraiment à cheval sur les deux langues, vous avez, j'imagine, essayé de comparer des poèmes, est-ce qu'il y a une énorme déperdition ? Il y a toujours une déperdition, mais est-ce que quand on passe de l'alphabet normal aux idéogrammes, on a une déperdition totale ?
Oui, je pense que si on fait diamant la traduction, il y a toujours... Enfin, on n'arrive pas à trouver le bon sens, parce qu'on ne peut pas...
C'était hermétique, pardon, j'ai cherché le mot, c'était hermétique. Dichtung, c'est hermétique. Pour pas qu'il y ait de fuite, de plomberie, il faut que ça soit bien hermétique. Et le poème est quelque chose qui, pour un Allemand, doit être un peu hermétique. Voilà, c'était un peu laborieux, pardon. Je t'en prie, Lei.
J'ai déjà oublié c'est quoi la question.
Non, est-ce que quand il y a une traduction de vocabulaire en alphabet occidental, quand on passe aux idéogrammes, il y a une énorme déperdition ou pas ?
Oui, si, j'arrive pas à trouver un exemple, mais tout à l'heure, j'ai un autre exemple dans ma tête pour les noms, c'est comme Covid, parce qu'avant, on donnait le nom pour Covid, on l'appelle plutôt les autres mots qu'on peut pas trouver un bon sens. Je sais pas si ça va être un bon exemple ou pas, comme les vocabulaires, on n'arrive pas à bien normaliser un vocabulaire pour certaines choses, du coup, dans notre tête, on peut pas imaginer. Mais finalement, aujourd'hui, on sait bien que c'est quoi Covid. Avant, on s'appelle plutôt flu ou fièvre ou Wuhan. C'est diamant dessiné avec certaines choses d'une ville ou de certaines personnes.
Alors, une question que je voudrais vous poser. Ah, d'abord, des auditeurs me demandent qu'est-ce que l'ESSEC ? Qui veut répondre à cette question passionnante ?
C'est une toute petite école perdue dans le Val d'Oise.
Yifan, qu'est-ce que tu fais à l'ESSEC ?
Alors, moi, je suis dans la formation MC, ça veut dire c'est le management des systèmes d'information en réseau. C'est un master spécialisé que l'ESSEC entend un des meilleurs business schools en France. Je suis désolée, je fais quand même un peu pub pour notre école. Et c'est un master spécialisé qui est coopéré entre l'ESSEC et Télécom Paris en tant qu'un des meilleures écoles d'ingénieurs pour nous éduquer, de bien comprendre les enjeux informatiques de nos jours.
Oula, tu répètes par cœur comme un perroquet les plaquettes qu'on t'a remises. C'est du faillotage. Qui, Lei, est-ce que tu veux bien annoncer une page de publicité en chinois et tu dis qu'ensuite nous allons écouter un morceau live de Serge Gainsbourg. Tu dis voilà, une page de publicité et ensuite un morceau live de Serge Gainsbourg sur Europe 1. Non, mais au micro.
Ah ok, bah...
Tu dis voilà, une page de publicité et ensuite Serge Gainsbourg en live sur Europe 1.
接下来我们将会进入一段广告。 我已经忘了他说的广告是谁要念的，然后我们很快再见。
J'ai pas entendu Serge Gainsbourg.
C'est quoi Serge Gainsbourg?
Ah, qu'est-ce que c'est que Serge Gainsbourg?
Nous, on n'a pas compris.
Eh ben, Serge Gainsbourg, c'est un chanteur français qui est mort en 1991, qui est un très très grand chanteur. Je crois qu'il est né en 1928, mais Benoît me vérifiera. Et est-ce que, donc, tu vois, on peut pas te faire confiance, Lei. C'est pas gentil. Je t'ai dit, annonçons une page de publicité. Et ensuite, nous allons écouter un morceau de Serge Gainsbourg.
请大家欣赏 Serge Gainsbourg 的一首歌。我们很快再见。
Voilà, pub et Gainsbourg.